Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui préoccupe de plus en plus de contribuables fortunés en France.
Oui, l'expatriation fiscale.
Exactement. Le climat fiscal ici est marqué par une incertitude palpable.
D'ailleurs, le cabinet Henley & Partners anticipe pour 2025 le départ de plus de 800 millionnaires de l'Hexagone.
800, c'est considérable.
Oui, et on parle d'une potentielle fuite de 4,4 milliards de dollars.
Ah, ça fait réfléchir.
Tout à fait. Et cette tendance, elle s'explique par plusieurs facteurs, hein. D'abord, la crainte ravivée d'un retour de l'ISF.
L'impôt de solidarité sur la fortune.
Oui, et peut-être sous une forme plus sévère. Ensuite, il y a la perspective d'une exit tax rétablie sur 15 ans. Ça complique vraiment la sortie pour les gros patrimoines.
Bien sûr.
Et puis, il faut pas oublier les taux marginaux d'imposition. Avec les prélèvements sociaux, on frôle les 50% sur les plus hauts revenus.
C'est énorme. Tout ça crée un contexte où explorer d'autres horizons devient une option sérieusement envisagée.
Exactement.
Notre objectif aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu ces stratégies, ces destinations possibles. On va s'appuyer sur une étude comparative très récente, basée sur des données gouvernementales 2024-2025.
C'est ça.
Mais attention, on ne va pas juste aligner des chiffres, des taux d'imposition.
Non, ce serait trop simple. L'idée, c'est de comprendre ce que ça implique vraiment.
Voilà. En termes de vie quotidienne, de stabilité, d'intégration et de perspective d'avenir, quoi.
Tout à fait. Notre analyse, elle va couvrir un spectre assez large de destinations. On va commencer par un cas un peu extrême, presque l'archétype du paradis fiscal.
Bahreïn, oui.
Bahreïn. Ensuite, on ira voir en Europe, avec des fiscalités plus douces. Je pense à la Bulgarie, au Monténégro.
D'accord.
Puis, on regardera les refuges plus traditionnels, plus premium. La Suisse, le Liechtenstein.
Les classiques.
Les classiques. On abordera aussi des géants économiques, les États-Unis, le Japon, avec leurs spécificités. On fera un détour par le Portugal, qui a beaucoup changé récemment sur le plan fiscal.
Bah oui, la fin du NHR.
Exactement. Et enfin, on explorera des alternatives qui allient fiscalité et cadre de vie, comme l'île Maurice ou la Grèce.
D'accord.
L'idée, c'est vraiment de fournir une vision nuancée pour aider à une réflexion éclairée, bien au-delà des simples chiffres.
Programme ambitieux mais nécessaire. Alors, commençons ce tour d'horizon par le golfe Persique, donc Bahreïn.
Allons-y.
0% d'impôt sur le revenu personnel. Franchement, ça sonne presque trop beau pour être vrai aujourd'hui.
C'est vrai que c'est l'argument choc de Bahreïn. Un taux zéro, confirmé pour 2025 par leur administration.
Zéro sur tout.
Zéro sur le revenu personnel, oui. Et ça s'étend aux gains en capital, aux dividendes, aux successions. C'est une politique d'une générosité quasi inégalée, faut le dire.
D'accord.
Ce modèle zéro impôt, c'est vraiment ce qui les différencie.
Mais bon, au-delà de cet avantage fiscal massif, qu'est-ce qui caractérise Bahreïn ? Parce que zéro impôt, parfois, ça peut faire penser à instabilité, manque d'infrastructures.
Oui, c'est une perception compréhensible. Mais Bahreïn essaie de contrebalancer ça. D'abord avec une stabilité politique assez remarquable pour la région. Ensuite, des infrastructures très modernes. Souvent aux standards occidentaux, d'ailleurs, que ce soit pour les affaires ou la vie de tous les jours.
L'anglais est courant ?
Oui, la population est majoritairement anglophone. Ça simplifie beaucoup l'installation, l'intégration pour des Européens.
Et le coût de la vie?
Il reste compétitif par rapport à d'autres centres financiers. Disons un indice 85 si on met la France à 100. C'est pas négligeable.
D'accord. Il y a déjà des Français là-bas?
Oui, une communauté d'environ 2500 personnes. Donc on n'est pas complètement isolé.
Et concrètement, comment on s'y établit? J'imagine qu'il faut des conditions, ces fameux Golden Visa?
Oui, Bahreïn a son programme, le Golden Residency. L'idée, c'est d'attirer investisseurs et talents.
Comment ça marche?
Une des voies principales, c'est un investissement immobilier, environ 530 000 dollars américains.
D'accord. Et ça donne quoi?
Ça donne un permis de résidence valable 10 ans, renouvelable. Et l'avantage majeur, c'est qu'il n'y a pas de durée minimale de séjour exigée chaque année.
Ah, ça c'est important.
Oui, c'est crucial pour ceux qui ont besoin de flexibilité, qui voyagent beaucoup ou qui gardent des activités ailleurs, tout en voulant bénéficier du régime fiscal bahreïni.
Et c'est rapide à obtenir?
Relativement. Entre 3 et 6 mois en général.
Bien sûr, il n'y a jamais que des avantages. Quels sont les points, disons, moins positifs, les défis?
Le premier défi, c'est le climat. Les étés sont extrêmement chauds et humides, il faut pouvoir le supporter. Économiquement, même s'ils diversifient, ils restent dépendants des hydrocarbures, de la finance. Ça peut amener une certaine volatilité.
Logique.
Et puis, L'isolement géographique et culturel peut jouer, surtout pour des familles qui cherchent un environnement plus proche des standards européens, pour l'éducation par exemple.
D'accord.
Ah, et il faut noter aussi, pour la transparence, que Bahreïn applique maintenant la taxe minimale de 15% sur les bénéfices des très grandes multinationales.
Ah, la taxe CDE?
Oui, celle qui vise les entreprises avec plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial. Mais, et c'est le point essentiel, ça n'a aucun impact sur la fiscalité des personnes physiques.
C'est bien noté. Bon, après ce modèle zéro impôt, explorons des options qui cherchent un équilibre différent. Peut-être en Europe de l'Est, Bulgarie, Monténégro. On parle souvent de fiscalité douce.
Oui, ce sont deux options souvent un peu sous-estimées. Elles combinent des taux bas avec un cadre européen, ou une forte proximité en tout cas.
La Bulgarie, membre de l'UE.
Depuis 2007, oui. Et elle vise la zone euro fin 2025. Elle a misé sur la simplicité, hein. Une flat tax de 10%.
10% sur tout.
Sur tous les revenus personnels, oui, c'est en place depuis 2008, confirmé pour 2025. C'est simple, c'est prévisible.
10%, c'est déjà très bas par rapport à la France, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres optimisations possibles?
Oui, la fiscalité bulgare est assez fine. Par exemple, les dividendes distribués par des sociétés locales sont taxés à 5% seulement.
Ah oui.
Les intérêts des comptes bancaires dans l'UE ou l'espace économique européen sont même totalement exonérés.
Intéressant.
Et pour les indépendants, les freelances, il y a un abattement forfaitaire de 25% sur les revenus. Ça peut ramener le taux effectif à seulement 7,5%.
Pas mal du tout. Et pour la résidence, un Golden Visa aussi?
Oui, il existe. Via un investissement de 512 000 euros dans des fonds spécifiques, ça donne accès à la résidence permanente et le pays a pas mal de conventions de non-double imposition.
D'accord. Et le Monténégro alors, qui n'est pas encore dans l'UE, mais candidat. Il semble différent, notamment pour l'accès à la résidence.
C'est un de ses gros attraits, oui. Le Monténégro a un système d'imposition progressif, mais très doux. 0% jusqu'à 700 euros par mois, 9% entre 701 et 1000 euros et 15% au-delà.
Ok, ça reste bas.
Oui, mais là où le Monténégro se distingue vraiment, c'est la facilité d'installation. On peut obtenir un permis de résidence temporaire, renouvelable, juste en créant une société locale.
Ah bon? Avec quel capital?
Un capital social d'à peine 1 euro et en s'y employant comme directeur. C'est une porte d'entrée quasi unique en Europe pour une expatriation progressive et à faible coût initial.
Incroyable.
Et en plus, le coût de la vie est très bas. Environ 55% moins cher qu'en France, selon les indices.
Donc, Bulgarie et Monténégro, ce sont des options européennes ou proches, abordables, fiscalement légères. Pour qui principalement?
On voit un intérêt croissant des entrepreneurs, des investisseurs, des dirigeants. Ceux qui cherchent un bon compromis, fiscalité optimisée, coût de la vie maîtrisé et garder un pied en Europe.
Et ça se voit dans les chiffres?
Oui, le nombre d'expatriés français y augmente. Plus 35% récemment en Bulgarie, plus 28% au Monténégro. C'est significatif.
D'accord.
Et petit détail intéressant, ces deux pays ont signé un accord de coopération fiscale en mars 2025 pour simplifier les démarches pour ceux qui ont des activités dans les deux pays.
Intéressant de voir ces alternatives émerger. Bon, maintenant, si la priorité absolue, c'est plutôt la stabilité, la discrétion, l'accès à des services financiers très haut de gamme, on pense naturellement à la Suisse, au Liechtenstein.
Absolument. Là, on change de catégorie. Ce sont les références pour la gestion de fortune premium, comme vous dites. Le ticket d'entrée est plus élevé, c'est sûr.
Oui.
Mais le niveau de service, la sécurité juridique, la stabilité politique, c'est difficilement égalable.
La Suisse, avec son fameux régime de taxation au forfait, basé sur les dépenses, pas les revenus, c'est toujours d'actualité en 2025, hein ?
Oui, oui. Malgré les débats passés, la Suisse maintient ce régime spécifique pour les étrangers fortunés qui ne travaillent pas dans le pays.
Le principe est le même.
Le principe reste le même. L'impôt est calculé sur une base forfaitaire qui correspond au train de vie, aux dépenses annuelles, avec des seuils minimaux qui varient beaucoup d'un canton à l'autre.
Ça va de combien à peu près?
Ça peut aller de 250 000 francs suisses à plus d'un million par an. Pour les très gros patrimoines, dont les revenus réels sont bien supérieurs à leurs dépenses, ça reste fiscalement très avantageux.
Et la Suisse s'adapte aussi, non?
Oui. Elle montre sa capacité d'adaptation. Il y a une légère hausse de TVA prévue pour financer les retraites. Et elle applique la taxe OCDE de 15% sur les multinationales depuis janvier 2024. Ça renforce sa crédibilité internationale sans toucher la fiscalité personnelle des résidents au forfait.
Et ce régime attire toujours? On craignait sa disparition à un moment.
Les chiffres récents montrent même une augmentation, plus 22% de résidents non USELA avec ce statut en 2025.
Ah oui.
L'attrait de la Suisse, ça dépasse la fiscalité. C'est la qualité des banques, l'excellence du système éducatif, le cadre de vie, cette stabilité légendaire.
Le revers de la médaille, c'est le coût de la vie, j'imagine.
Exactement. Très élevé. Un indice autour de 168 par rapport à la France à 100. Faut pouvoir suivre.
Et son voisin, le Liechtenstein, encore plus discret. Quels sont ses atouts spécifiques?
Le Liechtenstein, c'est la carte de la discrétion, de l'agilité, de l'innovation aussi. Par exemple, ils ont mis en place la TVA électronique, EVAT, en 2025.
Et le système fiscal?
C'est un mélange. Impôts fédéraux progressifs, de 1 à 8%, plus des surtaxes communales variables. Au final, le taux effectif maximal reste compétitif, autour de 17%.
Il y a un forfait aussi?
Oui. Il existe un régime forfaitaire, basé sur 25% des dépenses. Mais le principal frein pour le Liechtenstein, c'est l'accès à la résidence, le permis B.
Ah, ok. Pourquoi?
Il est contingenté et souvent attribué par tirage au sort. C'est moins prévisible que les programmes d'investissement d'autres pays.
D'accord. Donc pour résumer, Suisse et Liechtenstein, ça cible clairement les très gros patrimoines. Disons plus de 10 millions d'euros.
Oui, c'est ça. Pour eux, les coûts élevés sont justifiés par l'excellence des services, la stabilité et l'optimisation possible via le forfait.
La priorité, c'est la préservation.
La préservation et la transmission du patrimoine dans un environnement ultra sécurisé. Voilà. Fait notable aussi, ils ont renforcé leur coopération en matière d'échange d'informations fiscales en 2025.
Signe de transparence.
Oui, ils montrent leur engagement pour la transparence selon les standards internationaux, tout en essayant de préserver la confidentialité légitime des clients.
Bien. Changeons de continent. Deux géants économiques, mais avec des approches fiscales très différentes. Les États-Unis et le Japon.
Oui, on passe à des logiques distinctes, là. Les États-Unis, c'est le dynamisme économique incroyable.
Mais une fiscalité réputée complexe et lourde.
C'est ça. Le Japon, lui, peut surprendre par la facilité de certains visas, mais peut décourager par des taux d'imposition parmi les plus élevés au monde.
Alors, les États-Unis, cette fiscalité lourde et complexe, c'est une réalité pour un expatrié français?
Clairement, ce n'est pas une destination d'optimisation fiscale pure. L'administration Biden a pérennisé les taux fédéraux de 10% à 37%.
Plus les impôts locaux.
Voilà, auxquels s'ajoutent souvent des impôts au niveau des États et parfois locaux. Le visa investisseur EB5 existe toujours, mais les seuils sont élevés.
Combien?
800 000 dollars dans des zones ciblées, 1,05 million ailleurs. L'attrait principal des USA, c'est vraiment l'accès au marché. Un marché immense, un écosystème d'innovation, des marchés financiers.
Donc pour un entrepreneur actif, ça peut valoir le coup.
Oui, pour un entrepreneur ou un investisseur actif, ces opportunités peuvent primer sur la charge fiscale.
Mais le gros écueil, c'est cette fameuse imposition sur les revenus mondiaux, c'est ça?
Exactement. Si on est résident fiscal américain, détenteur de carte verte, ou si on remplit certains critères de présence, on est imposé sur ses revenus mondiaux.
Et ça veut dire?
Ça veut dire une complexité administrative énorme et des coûts annuels de conformité fiscale importants, souvent entre 15 000 et 25 000 dollars, même pour des situations pas si complexes au départ.
Ah oui, quand même.
Et les délais pour obtenir le visa IB5 sont très longs, parfois plusieurs années, 29 à 61 mois selon les estimations. C'est un engagement lourd.
Ok. Et à l'opposé, le Japon. Un visa investisseur très accessible, dites-vous, mais une fiscalité rédhibitoire.
C'est le paradoxe japonais, oui. On peut obtenir un visa business manager avec un investissement relativement faible, autour de 34 000 dollars, 5 millions d'yens.
C'est très bas.
Oui. Mais une fois résident fiscal, le taux marginal d'imposition combiné, national, préfectoral, municipal, peut frôler les 56%.
56%.
C'est énorme.
C'est énorme.
Mais il y a une subtilité.
Laquelle?
Les résidents dits non permanents, ceux qui sont installés depuis moins de 5 ans sur les 10 dernières années, ne sont imposés que sur leurs revenus de source japonaise et sur les revenus étrangers rapatriés au Japon.
Ah, d'accord. Ça peut offrir une fenêtre d'optimisation temporaire.
Exactement. Mais globalement, on choisit le Japon pour sa qualité de vie exceptionnelle, sa sécurité, son système éducatif, sa culture unique, son accès au marché asiatique. Pas pour sa fiscalité.
Donc, États-Unis et Japon, ce sont vraiment des choix stratégiques. liés à des projets d'entreprise ou d'investissement spécifiques.
C'est tout à fait ça.
L'accès au marché justifie une fiscalité moins favorable qu'ailleurs.
Voilà. Ce sont des décisions souvent motivées par des opportunités économiques précises. D'ailleurs, petit détail, un accord fiscal bilatéral USA-Japon a été mis à jour en janvier 2025 pour clarifier le traitement des stocks options, des cryptoactifs pour les expatriés, signe que ces flux existent.
D'accord. Parlons maintenant d'un pays qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, le Portugal, et la fin de son régime fiscal star pour les étrangers.
Oui, le Portugal, c'est un cas d'étude fascinant sur l'évolution des politiques fiscales en Europe. L'abandon, en janvier 2024, du très populaire régime NHR.
Résident non habituel.
Oui, ça a vraiment marqué un tournant. Ce régime offrait pendant 10 ans une exonération sur la plupart des revenus étrangers et un taux réduit sur certains revenus portugais. Il a attiré énormément de monde.
Surtout des retraités français, non ?
Oui, beaucoup de retraités français, entre autres.
Et pourquoi ce revirement soudain ?
Ben, une combinaison de facteurs. La pression d'autres pays européens qui voyaient ça comme une concurrence fiscale déloyale. Et une pression politique interne au Portugal, liée à la hausse des prix de l'immobilier, aux inégalités fiscales perçues entre les locaux et les bénéficiaires du NHR.
C'est logique.
Il faut préciser, ceux qui avaient déjà le régime avant sa suppression, ils gardent leurs avantages jusqu'à la fin de leur période de 10 ans.
D'accord, les droits acquis sont préservés.
Oui, mais pour les nouveaux arrivants, c'est terminé.
Et qu'est-ce qui remplace le NHR alors ? Le Portugal cherche toujours à attirer des étrangers.
Oui, mais de manière beaucoup plus ciblée. Le nouveau dispositif s'appelle IFIC.
IFIC.
Incitation fiscale pour la recherche scientifique et l'innovation. Ça propose un taux réduit de 20% sur les revenus du travail ou d'activités indépendantes.
20%, c'est intéressant.
Oui, mais seulement pour des professions très qualifiées dans des secteurs jugés stratégiques. R&D, technologie, innovation, start-up.
Très ciblé donc.
Très ciblé. Et surtout, c'est le point crucial pour beaucoup, ce régime exclut explicitement les pensions de retraite de sources étrangères.
Ah.
Elles sont désormais imposées selon le barème progressif portugais standard, qui va de 13% à 48%.
Ça change tout pour les retraités.
Ça change radicalement l'attractivité pour les retraités, oui.
Le Golden Visa aussi évolué, je crois. Fini l'immobilier direct.
Exactement. L'option d'acheter un bien immobilier pour obtenir le Golden Visa, c'est supprimé. Maintenant, il faut injecter au minimum 500 000 euros dans des fonds d'investissement agréés.
Des fonds spécifiques ?
Oui, des fonds qui doivent eux-mêmes investir majoritairement dans des entreprises portugaises. L'objectif est clair, orienter les capitaux vers l'économie productive, pas la spéculation immobilière.
D'accord. Donc le Portugal reste attractif pour sa qualité de vie, mais son profil fiscal a vraiment changé.
Nettement. Une évolution notable.
En effet. Pour finir, explorons des options qui misent peut-être plus sur l'alliance qualité de vie et fiscalité attractive, mais différemment. L'île Maurice.
Oui.
La Grèce.
Oui, deux destinations qui ont le vent en poupe avec des modèles intéressants. L'île Maurice, elle, séduit par sa simplicité et sa stabilité.
Simple comment ?
15%, flat tax aussi.
C'est ça.
Pas d'impôt sur les plus-values, sauf exception. Les dividendes de sources étrangères sont exonérés. Et il y a une convention fiscale avec la France pour éviter la double imposition.
15%, simple et stable. Et au-delà de la fiscalité, qu'est-ce qui attire à Maurice ?
Maurice, c'est d'abord une stabilité politique remarquable dans la région. Une démocratie parlementaire solide depuis l'indépendance en 68.
Et l'économie ?
Assez diversifiée. Finance offshore, tourisme, technologie, immobilier de luxe. Il y a plusieurs voies pour obtenir la résidence par l'investissement.
À partir de combien ?
Pour acheter un bien immobilier dans certains programmes agréés, les PDS, ou 500 000 dollars dans d'autres types d'investissements pour une résidence permanente.
D'accord. Et le coût de la vie ?
Très abordable. Indice 52 par rapport à la France. La communauté française y est bien implantée, environ 8 500 résidents.
Ok. Et la Grèce ? Elle semble avoir développé des régimes très spécifiques pour certains profils.
Tout à fait. La Grèce a été très stratégique. Pour les retraités étrangers qui transfèrent leur résidence fiscale là-bas, elle propose un taux forfaitaire exceptionnel, 7%.
7% sur quoi ?
Sur l'ensemble de leurs revenus de sources étrangères, et ce pendant 15 ans. C'est une offre unique en Europe pour cette catégorie.
C'est très attractif en effet.
Et pour les individus à très haut patrimoine, les HNY ?
High Net Worth Individuals.
Oui,
la Grèce propose une option d'imposition forfaitaire. On paye un impôt fixe de 100 000 euros par an et ça couvre l'intégralité de l'impôt sur les revenus de source étrangère, quel que soit leur montant.
100 000 euros forfaitairement.
C'est ça.
Ce régime à 7% pour les retraités est quand même particulièrement frappant. D'autres avantages en Grèce, Evelyne ?
Oui, pas d'impôt sur la fortune, des droits de succession et de donations relativement modérés, surtout en ligne directe. Elle fait partie de la zone euro, ce qui simplifie les choses.
Une Golden Visa ?
Il reste une option via l'investissement immobilier. Le seuil est passé à 500 000 euros dans les zones prisées, comme Athènes ou Mykonos, mais reste à 250 000 ailleurs. Et il n'impose pas de durée de séjour minimum.
Le coût de la vie ?
Avantageux ? Indice 68, et la proximité culturelle géographique avec la France. Ça séduit une communauté française assez large, environ 15 000 personnes. On assiste à une sorte de renaissance méditerranéenne pour la Grèce comme destination d'expatriation.
Donc, si je résume, Maurice, c'est l'exotisme stable, fiscalité simple à 15%, coût de vie bas.
Oui.
La Grèce, c'est des régimes très ciblés et attractifs. Ce 7% unique pour les retraités ou le forfait HNWI, tout en restant dans l'euro et proche culturellement.
C'est une excellente synthèse. Ce sont des options fortes pour ceux qui cherchent un équilibre réfléchi entre optimisation fiscale et qualité de vie. Peut-être un peu hors des sentiers battus comme la Suisse.
D'accord.
D'ailleurs, petit clin d'œil, Maurice et la Grèce ont signé un accord de coopération touristique en février 2025. Ça pourrait faciliter les séjours croisés pour les résidents des deux pays.
Qui peut s'y retrouver ? Faire le bon choix ?
C'est la question clé, évidemment, et la réponse, c'est vraiment la personnalisation de l'analyse. Si on récapitule les profils distinctifs.
Oui.
Bahreïn, c'est l'optimisation fiscale extrême, 0%. Bulgarie, Monténégro, le compromis européen abordable. Toba, accès facile surtout au Monténégro.
Mmh.
Suisse, Liechtenstein, l'excellence premium, la stabilité absolue, mais coût élevé. USA, Japon, choix stratégique pour l'accès au marché, fiscalité plus complexe et souvent plus lourde.
De Portugal ?
Portugal, changement de cap, plus sélectif, moins intéressant pour les retraités, mais potentiellement attractif pour certains talents avec l'IFICI.
Et enfin ?
Enfin, Maurice et Grèce. Excellent équilibre, qualité de vie, coût maîtrisé, régime fiscaux spécifique très attractif, le 15% simple mauricien, le 7% retraité ou le forfait HNWY.
Est-ce qu'on peut essayer d'esquisser des profils types pour illustrer, juste pour donner une idée, un entrepreneur, un retraité, une famille ?
On peut essayer, oui, même si chaque cas est unique, bien sûr. Pour l'optimiseur fiscal quasi pur avec plus de 5 millions d'euros, bon, Bahreïn semble logique.
Alternative.
Peut-être la Bulgarie comme alternative européenne moins radicale. Pour un dirigeant actif, 35-55 ans, qui a besoin d'un accès marché, les USA malgré la fiscalité, ou la Suisse pour le prestige, la proximité, les services.
Et un retraité ?
Un retraité confortable, disons, avec 2 à 10 millions d'euros de patrimoine, la Grèce et son régime à 7% semblent taillés sur mesure. Maurice offre une option stable, exotique, à 15%.
Pour une famille avec enfants ?
Et là, la qualité des écoles suisses est un atout majeur. La Bulgarie pourrait offrir un cadre européen émergent à coût plus maîtrisé. Mais attention, ce ne sont que des archétypes.
Bien sûr.
L'essentiel, c'est vraiment l'analyse approfondie du retour sur investissement sur 10 ans. C'est de faire des visites exploratoires, rencontrer des expatriés sur place. Et surtout, surtout, se faire accompagner par des conseillers spécialisés, en France et dans le pays visé.
Quelle grande tendance vous voyez se dessiner pour l'avenir de l'expatriation fiscale ? Faut s'attendre à de nouveaux changements ?
Plusieurs dynamiques sont à l'œuvre, oui. On sent une pression continue vers une certaine harmonisation fiscale, notamment en Europe.
Autour de 15-20%.
Ça pourrait converger autour de taux planchers de 15-20% pour les sociétés, avec des impacts indirects possibles sur les particuliers. Parallèlement, l'attractivité des économies émergentes et des programmes post-Covid pour attirer capitaux et talents, ça devrait perdurer.
Et la digitalisation, hein ?
La digitalisation facilite la gestion à distance. Ça renforce l'attrait des destinations lifestyle, où il fait bon vivre. Mais la tendance de fond la plus forte, c'est sans doute la pression pour plus de transparence fiscale.
L'OCDE ?
Oui, sous l'égide de l'OCDE. Ça avantage les juridictions dites coopératives blanches, celles qui ont une réelle substance économique, pas juste des boîtes aux lettres.
Donc la prudence est de mise.
Oui, la checklist de l'étude qu'on a consultée est très pragmatique d'ailleurs. calculer votre ROI, visiter, rencontrer des locaux et des expats, consulter des experts, anticiper les futures régulations et ayez toujours un plan B.
Tout ça nous montre bien que choisir de s'expatrier pour des raisons fiscales, c'est une décision infiniment plus complexe qu'il n'y paraît.
Ah oui, bien plus.
C'est loin d'être une simple équation mathématique, hein. C'est une démarche globale qui doit mettre en balance le patrimoine, oui, mais aussi et surtout la qualité de vie, les attaches familiales, les aspirations personnelles.
C'est un projet de vie.
Exactement. La vraie question finale, c'est peut-être comment trouver son propre point d'équilibre entre l'optimisation financière légitime et la construction d'une vie réellement satisfaisante, épanouie dans un nouveau pays.
C'est une réflexion très personnelle.
Oui, intime et profonde. Et face à cette complexité, des options, des réglementations, se faire accompagner par des professionnels avisés, ça semble plus que jamais indispensable.
Tout à fait. C'est crucial pour naviguer dans tout ça.